Le 30 octobre 1992.
Une excellente gymnastique intellectuelle. Ce matin, on regardait cette tradition religieuse dans un langage symbolique et mythique, tout à fait primitif. Et maintenant, nous allons regarder la critique. Je crois que c'est très important de voir ça. C'est un peu comme les deux extrêmes de notre vie intellectuelle. Je dis bien de notre vie intellectuelle. La critique ne finalise pas, mais la critique pour l'intelligence structure. Ça ne finalise pas du tout. Les gens qui sont dans la critique, plongés dans la critique, sont inféconds et d'une stérilité remarquable. La critique stérilise. C'est pour ça que vous êtes anti-critique dans la vie quotidienne. Dans la vie, par rapport aux hommes, on n'a pas le droit de critiquer les hommes. On critique les idées. On critique. C'est pour ça que c'est terrible d'écrire, parce que dès que vous écrivez, vous tombez sous la critique. Dès que vous faites une œuvre d'art, vous tombez sous la critique. Tant que vous restez dans vos idées, personne ne peut vous critiquer. Alors la tentation, c'est de rester dans sa cathédrale idéaliste, toujours illuminée jour et nuit. Dans nos idées, personne ne peut la critiquer. C'est la subjectivité transcendantale. Vous voyez, Kant critique. Il invente la subjectivité transcendantale pour ne pas être critiqué. Incritiquable. La subjectivité transcendantale. Je vous lance la poix. Si vous voulez me critiquer, espèce d'imbécile, vous ne comprenez pas. Mais dès qu'on écrit quelque chose, dès qu'on est... Ah, tout de suite. C'est très intéressant de voir ça. Hein. On critique les idéologies. Et on doit les critiquer. On doit montrer que tout ça, c'est un château de cartes. Un jeu d'enfant. Des idéologies, c'est un jeu d'enfant. C'est l'intelligence humaine qui retourne au gagatisme. C'est une espèce de gargarisme intellectuel. Ils se contentent de ça. Ça ne repose sur rien. L'idée, a priori, de quelqu'un. Et le réel crie Dieu. Et l'idéologie crie, je ne dis pas, crie l'égocentrisme, l'ipsolipsisme. C'est ça que crie l'idée. Et les idéologies athées reposent là-dessus. C'est un édifice de jeu de cartes. Mais alors la critique est très nécessaire pour ça. Tandis que je restais uniquement, n'est-ce pas, sur le symbolisme de l'écriture, il vous dirait jeu d'enfant. Oui, mais d'enfant divin. Si vous devenez comme des tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et les tout petits respectent le symbolisme et le mythe. Ils respectent à leur place. Et la critique est faite pour respecter les traditions religieuses. Ne pas respecter les traditions religieuses, ça prouve qu'au fond, on a un orgueil fou. Parce qu'on croit que tout a commencé par nous. C'est quand même un orgueil fou, ça. Je respecte, à côté de moi, il y a quelqu'un, quand même, qui dit de temps en temps, à toutes les heures, il dit une chose intelligente. Puis entre deux, il baille. Mais il dit que chose intelligente de temps en temps. Et je respecte ça. Et je respecte des traditions religieuses. Des traditions qui ont plus de 1000 ans, qui ont 2000 ans, qui ont 3000 ans. Vous croyez que ce que vous dites, ça aura 3000 ans? Vous êtes bien fiers. Ces traditions religieuses ont plus de 3000 ans. C'est quand même extraordinaire. Et l'humanité les garde. Alors il faudrait croire que l'humanité n'est intelligente qu'à partir de la science moderne. Mais non. Mais non. était intelligente avant. La science a quelque chose à dire. C'est sûr, elle a quelque chose à dire. Mais c'est un produit, un produit, un produit. Et quelquefois, ça devient uniquement de la dentelle. Un formalisme poussé à l'extrême devient de la dentelle. Alors évidemment, vous pouvez prendre comme drap de la dentelle. Ça ne tient pas beaucoup. Vous voyez, c'est intéressant de voir providentiellement. Je n'ai pas dit de mettre ces deux coups l'un à côté de l'autre. Mais j'obéis au cadre. Ce matin, les traditions les plus primitives, c'est beau, c'est grand. Première division, la lumière des ténèbres. Maintenant, critique. Critique métaphysique. Critique, la sagesse seule peut critiquer, dit saint Thomas. La sagesse seule se critique. Parce qu'elle atteint le sommet. Et quand on a atteint le sommet, on peut regarder tout ce qu'on a fait avant. Et la sagesse se critique pour montrer que tout ce qu'elle dit se fonde sur le jugement d'existence. Ceci est. Oui. Alors, ça, c'est au fond très grand. Le mythe, le symbole, repose sur la forme, les idées. Mais quand ces mythes et ce symbolisme est religieux, il repose sur les aspirations les plus profondes de l'homme, sur l'appétit fondamental de l'homme. Et l'appétit fondamental de l'homme, il échappe à la critique. C'est vrai, l'amour échappe à la critique. Pascal dit ça très bien. Les raisons du cœur ne sont pas nos raisons, nos idées. Alors évidemment, on peut nier toute affectivité. Hein. Alors vous devenez un squelette. Squelette ambulant. Parce que la vie appelle l'amour. La vie appelle l'amour. Toujours dans la vie, un mouvement d'amour. Alors, la critique va montrer les limites de l'intelligibilité. Mais en même temps, la grandeur de l'intelligibilité. Au terme de la critique, on doit comprendre ce que représentent ces idéologies. Et on doit comprendre ce qu'est la sagesse. L'idéologie n'atteint jamais la sagesse. Parce que mon idée, à moi, n'atteint jamais l'absolu. C'est ce qu'il y a de juste dans Sartre, quand il dit que si on avait une idée de Dieu, ce ne serait plus Dieu. Tandis que vous pouvez avoir une idée de l'être, en comprenant que l'idée de l'être est dépendante de votre jugement d'existence. Et c'est ça que la critique montre. Alors, je continue d'essayer de voir comment, au point de vue du jugement, tout repose sur le jugement d'existence. J'insiste un peu là-dessus, aussi bien en métaphysique qu'en critique, parce que c'est tellement important. On peut dire que notre Occident, c'est l'oubli du jugement d'existence. Donc l'oubli de la fondation. Ce qui fonde tout. Tout l'édifice intellectuel repose sur le jugement d'existence. Il repose donc sur ce fait que ce qui est est antérieur à ma pensée et que ma pensée n'est pas créatrice de l'être mais que ma pensée est relative à l'être. C'est ça le jugement d'existence. Alors évidemment on met beaucoup juste un formalisme. L'intelligence n'est pas athée. L'intelligence cherche. Mon intelligence cherche. Mon intelligence n'est pas athée. Parce que être intelligent, c'est comprendre qu'on n'atteint jamais le terme. Qu'on a toujours à chercher. Donc on n'est pas athée. L'athée, c'est celui qui boucle. Terminé. C'est le serpent qui meurt sa queue. Et qui de fait, est-ce que je me connais? Non, je me connais pas. J'ai en moi des choses étonnantes. Je me découvre tous les jours un peu plus. Je peux jamais dire, maintenant c'est terminé, je me connais. Ça c'est petit bourgeois. Oui, maintenant je me connais. Maintenant je me connais jamais. Je dois aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Alors, le terme, c'est quand je touche l'absolu dans l'ordre de l'être. Et je sais qu'en le découvrant, il m'échappe. Alors, les deux grands jugements d'existence, au point de vue critique. Le premier jugement d'existence, ceci est. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Grand jugement d'existence. Alors, je prends le premier, puisque toute la métaphysique repose, nous l'avons dit, et la critique vient là pour montrer que c'est exact. S'il existe une philosophie première, elle ne peut être que la philosophie de ce qui est. Et elle ne peut commencer que par le jugement d'existence. Et là, la critique vient montrer que ma philosophie première, c'est la philosophie de ce qui est en tant qu'être. Pourquoi? Parce que tous les autres jugements présupposent celui-là. C'est le plus fondamental. Tous les autres jugements. Quand je dis Pierre est intelligent, Pierre est intelligent. Alors la scolastique a dit « est », c'est la copule. Vous voyez ça, c'est, on se met le doigt dans l'œil. C'est pas du tout la copule, ça c'est logique. Au point de vue logique, c'est comme ça. Mais au point de vue réel, quand je dis Pierre est intelligent, je veux dire Pierre existe étant intelligent. Il existe de cette manière qu'il existe étant intelligent. Donc c'est la réalité que je touche. La réalité existentielle ou existentielle, si on est à l'intérieur. Alors existentielle. Il prend existentiel parce que existentiel est usé. Là, quand les mots sont usés, on achète de nouveaux pneus. Alors on dit existentiel. Mais c'est parce qu'on pense avec le langage. Quand on pense pas, quand on dépasse le langage, on n'a pas besoin de renouveler les mots. On a besoin simplement de comprendre qu'est-ce qu'ils signifient en réalité. Vous voyez, enfin, renouveler les mots. C'est aller chez le garagiste pour acheter un nouveau pneu. Et on croit que le langage est un signe, mais le langage n'est pas la pensée. Alors, c'est ça qui est important à voir tout de suite au point de vue critique. C'est de voir que, quand je dis que le jugement d'existence, ceci est premier, au point de vue du langage, il n'est pas premier. Alors, est-ce que je fonde ma philosophie sur le langage? Est-ce que je fonde ma philosophie sur ma connaissance et ma pensée? Si je fonde ma philosophie sur le langage, il est évident que ceci est n'est pas premier puisqu'ils sont deux. Ceci est. Le nom et le verbe. Le nom et le verbe, ce sont des éléments. Mais ce sont des éléments de mon langage. Mais c'est pas premier, puisque c'est deux. Et que la dyade n'est jamais première. Il faut quelque chose au-delà de la dyade. Il faut l'un. Alors qu'est-ce qui est avant? Ah, nous avons vu qu'au point de vue de la pensée, avant le jugement, il y a le concept. Alors nous sommes en phase de trois. pas m'arrêter au jugement. Ah, c'est intéressant à voir comment je ne peux pas m'arrêter au jugement, qu'avant le jugement, il y a l'appréhension. Et que l'appréhension saisit des déterminations simples, blanc, animal. Si tu restes poussé un tout petit peu, je verrai que l'appréhension implique déjà en elle-même une multiplicité. Il y a les cinq prédicables. Vous les connaissez, hein ? Il faut les connaître. Animal, le genre. Différence spécifique. Espèce. Propriété. Accident. Il y a cinq modalités de l'universel. Or, l'appréhension, c'est ce qui me fait toucher une connaissance universelle. Et je vois que cette appréhension, qui est première, elle a pourtant cinq modalités. Ça, c'est quelque chose alors. Alors elle est plus première, puis il y a cinq modalités. Ah, ça, je pose l'objection. Hein. Et c'est important pour essayer de comprendre ensuite ce que c'est que le jugement. J'ai les cinq prédicables. Et les cinq prédicables sont présents dans le langage. Pierre est un animal. Je suis un animal. Pierre est intelligent. Je suis intelligent. Pierre est un homme. Je suis un homme. Pierre est capable d'aimer. Je suis capable d'aimer. Pierre pèse 110 kilos. Alors je dis pas que je pèse 110 kilos. Je pèse moins. Et ça, c'est le langage. Je suis obligé de constater ça. Alors voyez, comme c'est intéressant, le langage est multiple. Est-ce que ça enlève la simplicité de l'appréhension? Parce que la critique va plus loin que la logique. La logique est liée au langage. Et la critique est liée à la pensée. C'est très vrai que dans le langage, il y a cinq prédicables. Je crois que ça existe dans toutes les langues, ça. Cinq modalités d'universel. C'est une structure très intime de mon langage. Il s'agit des prédicables. Qu'est-ce que c'est que prédicable? Capable d'être attribué. Ce sont les termes capables d'être attribués. Ce sont des prédicables. Donc, je dis prédicable parce que il y a l'attribution, toujours. Donc, il y a le jugement. Tout jugement implique une attribution, selon le langage. Prédicable, ça veut dire capable d'être attribué. Il y a cinq capacités d'être attribué. Mais au-delà de ces cinq modalités d'attribuer, il y a la pensée, l'appréhension. Elle est simple. Et cette simplicité s'exprime de cinq manières. Pourquoi ? Parce que ce qui est au point de départ n'est jamais simple dans sa perfection. Mais il est simple quand même. Vous voyez, quand vous regardez ce qu'est la simplicité et ce qu'est la perfection, vous voyez que pour être parfait, il faut que vous quittiez la simplicité. l'appréhension présuppose le jugement. Et que l'appréhension est ordonnée au jugement à cause des cinq prédicables. L'appréhension prise en elle-même est simple, mais elle est inséparable du jugement. C'est le jugement que je saisis en premier lieu. Et le passage de la simplicité au jugement se traduit dans les cinq prédicables. Au point de vue logique, j'ai cinq prédicables. Au point de vue critique, j'ai la simplicité de cette opération de l'appréhension qui saisit l'acuité. L'acuité en elle-même est indivisible. Elle me dit une intelligibilité de la forme, de la détermination animale. Quand je saisis animal, animal n'implique pas raisonnable. Animal, c'est animal. La signification d'animal est simple. La signification de raisonnable est simple. La signification de l'homme est simple. La signification de celui qui est capable d'aimer est simple. Vous voyez, la simplicité demeure dans la prédicabilité. Alors, si je réfléchissais un instant ici, là-dessus, je dirais, tiens, si c'est la structure fondamentale et première de mon intelligence, je vois tout de suite que mon intelligence exprime ou se développe d'une manière analogique. Dans la simplicité, il y a la multiplicité. Dans la simplicité de mon appréhension qui saisit l'acuité, il y a les cinq modalités d'attribution. Est-ce que c'est pas ça l'analogie? C'est de découvrir dans la diversité quelque chose d'un et d'indivisible. La structure première de mon intelligence n'est pas du tout le point de vue de la dialectique. La structure première de mon intelligence est analogique, puisque l'appréhension est simple et elle s'exprime dans les cinq prédicats. Et donc là, tout de suite, le point de vue d'une connaissance qui, dans sa simplicité, a le multiple, qui, dans le multiple, garde la simplicité. Et l'analogie n'est pas autre chose que ça. Donc, le problème de l'appréhension et des cinq prédicables me met tout de suite en présence d'une connaissance qui implique l'analogie. Et c'est intéressant parce que ça montre la différence entre la critique et le point de vue logique. La logique n'est pas analogique, tandis que la critique l'est, parce qu'elle cherche à comprendre la vie de l'intelligence, la structure de l'intelligence. Et la structure fondamentale et première de mon intelligence, c'est l'appréhension. Mais une appréhension qui tout de suite s'exprime dans la diversité. Passage de la critique à la logique. C'est très intéressant de voir ça parce que ça montre que parler d'analogie, c'est toujours impliquer un dépassement de la logique. Le dépassement de la logique, c'est de montrer que dans la diversité des cinq prédicables, il y a l'unité. Ils sont tous des prédicables et sont chacun divers. Et qu'est-ce que c'est que le prédicable? C'est ce qui est capable d'être attribué. Qu'est-ce qui est capable d'être attribué? C'est l'universel. Le premier moment où l'universel apparaît dans ma vie intellectuelle, c'est l'appréhension. Et l'universel se fonde sur quoi? Sur l'abstraction. La réalité n'est pas abstraite. La réalité est une. Dans sa complexité. Elle est antérieure à l'analyse. Et je trouve la diversité dès que j'essaie d'analyser. Parce que les réalités que je connais ne sont pas simples du tout. Mais je les connais en saisissant ce qu'il y a en elles de simples. manière d'exister est simple. Pourquoi ? Parce qu'elle est une assimilation intentionnelle. Je connais telle qualité. Et le langage montre cela. Mais le langage montre que le langage n'a pas la finesse de la connaissance. Puisque le langage est au niveau de la logique. Logique et langage, c'est au même niveau d'altitude. La logique implique tout le temps le langage. Tandis que la connaissance va plus loin que le langage. Je connais quelque chose de simple, et mon langage n'est jamais simple. Avant le jugement, il y a l'appréhension qui saisit l'acuité. Le jugement, lui, est toujours composé ou divisé. Ceci est, ceci n'est pas. Le jugement, le plus simple, donc le plus proche de l'appréhension, le plus en continuité avec l'appréhension, c'est le jugement d'existence. Le langage me le montre. Premier signe. Mais au-delà du langage, je peux dire que le jugement, ceci est, et le plus simple. Pourquoi ? Parce que le jugement, à la différence de l'appréhension, est en contact direct avec la réalité, l'expérience. Au-delà du langage, l'expérience. Dans mes expériences, dans toutes mes expériences des réalités de ce monde, il y a un jugement d'existence qui est méta-expérience au sens très fort. J'ai l'expérience de la couleur. Je n'ai pas l'expérience de l'être. Mais l'être, je le touche par mon intelligence. Mon intelligence est capable d'atteindre dans les réalités complexes quelque chose qui n'est plus complexe. Cette réalité, en tant qu'elle est une, elle est une dans son exister. Dès qu'elle n'existe plus, elle n'est plus une. On voit ça chez l'animal, d'une façon remarquable. Un quart d'heure après qu'il meurt, oulala, ça va dans tous les sens. C'est vrai. Regardez un petit cadavre. Un petit chat. Faut pas le laisser trop longtemps en face de vous. Hein. Il part dans tous les sens. Il y avait une unité. Et c'est au fond cela que saisit le jugement. Saisit l'unité d'une réalité extérieure à moi. Je peux pas nier ça. Évidemment, je peux le nier. Je suis capable de tout nier. Hein. Puisque je suis capable de nier que tu existes, donc je suis capable de tout nier. Si je suis capable de nier que tu existes, je suis capable de tout nier. Et même de me nier moi-même. Je suis capable de dire que je n'existe pas. Je peux le dire. Puisqu'on est capable d'erreur. Donc je peux dire que je n'existe pas. Et dans des cas de folie, c'est ce qui arrive. Hein. Et la folie garde la logique. Parce qu'au-delà de l'être existant, il y a l'être de raison. Et quand on est fou, on garde l'être de raison. C'est curieux. Ce qui prouve que la raison est au-delà de la folie. Heureusement. Un fou est logique. Avec lui-même. C'est une logique très spéciale, la logique de la folie. Qui est peut-être plus fondamentale que la logique de l'homme conscient. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est un peu fou. Ammons, cette chose extrêmement curieuse, que l'intelligence est capable de réfléchir sur elle-même. C'est pour ça qu'il y a la critique du reste. Et en réfléchissant sur le jugement d'existence, je vois que, selon l'expérience, ce jugement est présent à toute expérience. C'est pour ça que je dis qu'il est méta-expérience. Et c'est l'intelligence qui saisit quelque chose qui est au-delà du sensible. Ce jugement d'existence, il exprime que l'intelligence s'affronte au réel. Que l'intelligence est présente au réel. Ceci est. Là encore, je vois que ce jugement d'existence implique le nom et le verbe. Le nom, donc ceci. C'est le nom le plus commun, ceci. Et puis le verbe, c'est le verbe le plus commun, ceci est. Et le jugement unit les deux. Une unité absolue. Or, le nom n'est pas l'acuité. Et le verbe n'est pas l'acuité. C'est net. Ceci est concret. Or, l'acuité est abstraite. J'ai donc l'acuité est universelle. Ceci est concret. Le terrible problème de Hegel. Comment trouver dans l'universel le concret? Comment unir l'universel et le concret? Alors qu'il y a une opposition entre les deux. L'universel vient de l'appréhension et le jugement regarde le concret. Question, point de vue critique, entre le scotisme et le thomisme. Qu'est-ce qui est premier, le concret ou l'abstrait? Ça, c'est une querelle d'école. Parce que ça signifie rien du tout. Donc, c'est une querelle d'école. Parce que les écoles formalisent et s'amusent dans la formalisation. Alors, querelle d'école. Mais c'est ni l'un ni l'autre. D'une certaine manière, l'universel est antérieur, et d'une autre manière, le concret est antérieur. Donc tous les deux ont leur antériorité. Donc à ce point de vue-là, ils se saluent. Puis c'est tout. Et puis chacun va dans son sens. L'universel est premier dans l'ordre de la connaissance. C'est sûr. Tout ce que mon intelligence connaît, le connaît sous ce point de vue universel. Mais le concret est premier du côté de la réalité existante. C'est sûr. Ceci existe. L'universel n'existe pas comme le ceci. Ils ont deux manières différentes d'exister. L'un existe dans l'intelligence, l'universel. L'autre existe dans la réalité, avant l'intelligence. Donc il a une antériorité sur l'intelligence. Une antériorité magistrale. Il est concret. Alors, le nom est concret. Et l'universel, comment je reconnais, c'est là le problème, je reconnais que l'universel est antérieur. Et mon intelligence dépasse cette antériorité de l'universel pour rejoindre le concret. C'est mon intelligence qui dit ceci est. C'est donc mon intelligence qui atteint le concret. Alors comment expliquer ça? Dans l'analyse, c'est là la critique, dans l'analyse, je reconnais que l'universel est antérieur. Je ne peux rien y connaître sans passer par l'universel. C'est les limites de mon intelligence. C'est le conditionnement de mon intelligence. Mon intelligence connaît toujours tout en universalisant. Par abstraction. pause n'est pas l'intelligence. Le pause de mon intelligence n'est pas le tiesti de mon intelligence. Mon intelligence en elle-même dépasse son conditionnement. Vous voyez, vous retrouvez toujours la même chose. Conditionnement, pause. Et ce qu'est la réalité, tiesti. Mon intelligence comme intelligence dépasse son conditionnement. Autrement, elle ne serait plus l'intelligence. Elle est telle intelligence, intelligence humaine. L'intelligence humaine connaît selon un mode abstrait. C'est sûr. Mais mon intelligence humaine reste une intelligence. Et donc, elle dépasse son conditionnement. Et quand elle dépasse son conditionnement, qu'est-ce qu'elle atteint? Elle atteint ce qui est. C'est pour ça que le jugement, qui est opération de l'intelligence, atteint ce qui est, et par l'être, et l'unit, l'universel et le concret. C'est l'être qu'elle saisit, qui fait, je ne dis pas la synthèse, mais d'une certaine manière, qui va unir le concret et l'universel. L'universel et le concret s'unissent dans l'être. Ceci est. Dans le ceci, en tant que détermination, il y a l'universel. Et en tant qu'il existe, il est concret. Vous voyez, là, vous touchez ce qu'il y a de tout à fait original à l'intelligence, à l'esprit. Parce que c'est propre de l'esprit, ça. C'est propre de l'esprit de pouvoir unir l'universel et le concret. Est-ce que ce n'est pas l'intuition profonde de Hegel? Et c'est pour ça que là, il touche Aristote. C'est un problème que Platon n'a jamais saisi. Mais Aristote a vu la différence entre l'universel et le concret. C'est pour ça qu'il a inventé la logique, qui regarde l'universel. Et qu'il a découvert la philosophie première qui regarde le concret, ceci est. Je ne connais l'être que par l'existant, ce qui est. Autrement, je ne connais pas l'être. Connaître l'être par l'universel, c'est ramener l'être à l'être de raison. Et donc, ce n'est plus connaître ce qui est. Aristote a découvert cette distinction entre l'universel et le concret. Et son disciple, Hegel, un disciple curieux, et son disciple, Hegel, dit que seul Aristote forme. Il le dit. C'est pour ça, quand vous êtes en face d'un hegelien et vous lui demandez est-ce que vous connaissez Aristote, alors il vous dit non. Donc vous n'êtes pas un disciple d'Hegel. Vous êtes un mauvais hegelien. Puisque Hegel dit que c'est l'Aristote forme. Alors vous ne connaissez pas Aristote, donc vous n'êtes pas formé. Avec moi, dans ce langage-là, alors là, vous ne pouvez plus rien dire. Vous connaissez Platon, mais Platon ne forme pas. Platon permet une certaine joie, une certaine délectation, une certaine jouissance de la connaissance poétique, mais ça ne forme pas. Alors, en face de le concret et l'abstrait, l'universel et le concret, Hegel ne voit pas d'autre chemin que la dialectique. Toute la dialectique est faite pour rejoindre l'universel et le concret. Toute la dialectique est faite pour ça. Alors, pour nous, c'est l'intelligence dans son acte même d'intelligence qui fait l'unité de l'abstrait et du concret dans le jugement d'existence. Autrement dit, c'est l'être qui fait l'unité et non pas l'intelligence.